France Culture.
Question du soir. Quentin l'a fait.
L'encyclopédie en ligne Wikipédia fête ses 25 ans aujourd'hui même. Mais depuis le mois d'octobre, elle connaît une concurrente, Grokipédia, l'encyclopédie d'Elon Musk lancée pour contrer les biais gauchistes de celle qu'il surnomme Wokepédia. Ainsi, les attaques contre l'encyclopédie en ligne se font de plus en plus nombreuses. Ses contributeurs bénévoles sont accusés d'avoir un projet idéologique. Pourtant, depuis 2001, l'encyclopédie n'a cessé de développer ses méthodes de contribution et de modération avec pour horizon revendiqué et affiché la neutralité du savoir. Alors au fil des années, comment Wikipédia a-t-il construit l'idéal d'un savoir neutre? Quel est le fonctionnement de cette encyclopédie qui voit passer sur son site plus de 3 millions d'utilisateurs par jour en France seulement? Une invitée ce soir pour nous éclairer, Jeanne Vermersch, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques, actuellement chercheuse post-doctorante au sein du laboratoire JPEG, le laboratoire des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion d'Avignon Université. Votre thèse portait sur les contributeurs aux articles politiques de Wikipédia, une thèse que vous avez soutenue en 2025. Merci d'être venu ce soir à Question du soir.
Grokipédia n'est pas seulement plus neutre et précis que Wikipédia. Il contient aussi beaucoup plus d'informations. Nous avons simplement entraîné Grok et développé son esprit critique. Il a désormais un très bon esprit critique. Nous l'avons entraîné sur le million d'articles les plus lus de Wikipédia. Il les a relus, modifiés et supprimés ce qu'il fallait supprimer. Pour corriger, il a lu toutes les sources publiques qu'on trouve ailleurs sur Internet. Il a non seulement corrigé les erreurs de Wikipédia, mais aussi ajouter beaucoup de contexte. Par exemple, parfois, certaines choses écrites sont techniquement vraies, mais ne représentent pas correctement une personne ou un événement.
Propos tenus par Elon Musk qui ajoute le but de Grok et de Grokipédia est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors dites-nous la vérité, Jeanne Vermersch, Grokipédia, est-ce que c'est aussi formidable que l'affirme son créateur?
Alors, Grokipédia, c'est très différent de Wikipédia, puisque dans le nom même, en fait, ce qu'on perd, c'est Wiki. Donc, c'est-à-dire que Grokipédia est entièrement généré par Grok, donc l'intelligence artificielle générative d'Elon Musk. Et en fait, les lecteurs n'ont aucun pouvoir d'édition, de discussion, de modération des contenus, comme ils peuvent l'avoir sur Wikipédia. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, et c'est pas très étonnant au vu de ce que peut générer Grok, c'est alors je vais même pas parler d'encyclopédie parce qu'en fait on peut pas parler d'encyclopédie quand on parle de Grokipédia, c'est pas du tout
pourquoi
tout
parce
la
que
même
tous
chose.
les sujets n'apparaissent pas ou bien parce qu'ils ne sont pas associés à une définition et une histoire,
mais parce qu'en fait Grokipédia c'est pas du savoir. Une intelligence artificielle générative, elle ne produit pas du savoir. D'ailleurs on appelle ça des modèles de langue et pas des modèles de connaissances. C'est pour une raison. Une intelligence artificielle générative comme Grok, elle construit pas de preuves, de théories, de concepts. Elle sait pas hiérarchiser des sources. Et évidemment qu'en fait, une intelligence artificielle générative, elle est pas neutre, ne serait-ce que par les données d'entraînement qu'elle a, sur lesquelles elle s'est entraînée, et puis par les objectifs qu'on assigne à ces modèles de langue. Donc en fait, enfin. Ne serait-ce que dire Grokipédia est une encyclopédie, c'est un contresens en soi. Bon, après, ça n'empêche pas de vouloir les comparer. Et ce qu'on voit, c'est... Et les lecteurs, les internautes ne s'y trompent pas. Hein, Grokipédia a perdu dès le premier mois de nombreux lecteurs. C'est qu'on a des contenus en fait très orientés. Ça continue à référencer Wikipédia, puisque ça ne peut pas se passer de Wikipédia. Grok, de toute façon, ne peut pas se passer de Wikipédia aujourd'hui. Ça continue à référencer Wikipédia et puis ça y ajoute du discours négationniste. Voilà.
Bon, et en miroir, comment expliquez-vous que, d'un point de vue politique, cette fois, Elon Musk s'intéresse à Wikipédia? Qu'est-ce qui le fascine dans le projet de Wikipédia? Qu'est-ce qui l'agace? Pourquoi en a-t-il fait lui-même, hein, et c'est un avis partagé par beaucoup, on y reviendra, mais pourquoi en a-t-il fait un objet politique à part entière?
Alors, deux choses. Ce qui a énervé Musk au début de fin 2024, début 2025. C'est sa biographie où, après l'investiture de Donald Trump, est mentionné le fait qu'il ait fait un salut nazi.
Sur la page Wikipédia d'Elon Musk.
Sur la page Wikipédia, du Wikipédia anglophone d'Elon Musk. Et en fait, ça, c'est pas très nouveau. Hein. Les personnalités politiques apprécient très rarement leur page biographique Wikipédia. Mais c'est pas là. En fait, Wikipédia est pas là pour ça non plus. Je pense qu'on écrirait ma page. Je serais pas forcément contente de ce qu'on écrit. Mais bon, après, il suffit. En fait, il suffirait à Elon Musk d'apprendre à contribuer et puis il pourrait modifier sa page, même si c'est pas très bien vu de modifier sa page, soit sa propre page biographique. En fait, je pense qu'il y a une insatisfaction du fait de pas pouvoir avoir le contrôle sur un récit biographique, une présentation biographique d'Elon Musk, de lui-même. Et puis, deuxièmement, je pense que ce qu'il est très important de comprendre, c'est que Wikipédia fonctionne en dehors des logiques marchandes des plateformes, d'autres plateformes en ligne qu'on connaît bien. Notamment, en fait, Twitter, X, qu'il a racheté. Il s'était proposé, ironiquement, mais en fait, pas tant, de racheter Wikipédia. Mais ça fonctionne pas comme ça. On peut pas racheter Wikipédia. Et donc, je pense qu'il y a ce fait que c'est un savoir qui n'est pas... marchandisé, qui fonctionne en dehors de logique marchande, et ça, je pense que ça le frustre énormément.
En France, cette fois-ci, plusieurs batailles ont opposé des journaux, des quotidiens, des hebdomadaires à l'encyclopédie Wikipédia. Prenons un exemple, Le Point contre Wikipédia, Le Point qui titrait « Comment l'encyclopédie libre, c'est entre guillemets, est devenue une machine à calomnier ». Cette opposition entre des journalistes français et cette encyclopédie libre, comment est-ce que vous la comprenez? Elle est différente?
Pas tant, puisqu'en fait, ça part du fait que Le Point est aussi très frustré de sa page Wikipédia. Hein. Ça part de là, en fait. Il trouve que leur page est orientée et biaisée. Si vous regardez les réactions des contributeurs à la sortie du premier article du Point en janvier 2025, ils disent, oui, il y a peut-être des choses à reprendre. OK, bon, il n'y avait pas besoin de faire toute cette pagaille, mais très bien, on va reprendre l'article. Il y a des choses qui pouvaient être hiérarchisé. Et d'ailleurs, il retravaille l'article. Et en fait, s'ensuit quand même des choses qui, à mon sens, sont graves. C'est-à-dire qu'on parle d'articles qui commencent à mettre en doute l'anonymat, notamment des contributeurs, à menacer des contributeurs de révéler leur identité, notamment à leur employeur, parce qu'ils ont contribué à des pages politiques, et une pétition signée par des personnalités politiques, parce que, encore une fois, pas contents de leur page biographique. Moi, et Elon Musk et Le Point, en fait, ça se rejoint, je pense que, avant tout, ça prouve une méconnaissance fondamentale de ce qu'est Wikipédia, de comment Wikipédia fonctionne et de ce que ça représente, en fait, dans l'espace numérique et dans l'espace de la connaissance aujourd'hui.
Alors, on va se demander, Jeanne Vermerch, si Wikipédia est biaisé, si Wikipédia est trop de gauche. Mais d'abord, je voudrais qu'on fasse l'historique de cette encyclopédie libre en écoutant Jimmy Wales, l'un des cofondateurs de Wikipédia.
The term wiki comes from a Hawaiian term, wiki-wiki, which means...
Le terme wiki vient de l'hawaïen wiki-wiki, qui veut dire rapide. Avec wiki, on voulait permettre une contribution rapide. Un wiki est un site web que n'importe qui peut modifier. On ne pouvait pas encore le qualifier d'encyclopédie à l'époque. En 2 semaines, on a accompli autant de choses que si on avait travaillé pendant 2 ans. Les gens pouvaient contribuer plus facilement, vous pouviez y aller et être le premier à écrire « Paris est la capitale de la France ». Ce n'est pas un très bon article, ce n'est qu'une phrase sans la moindre référence, mais c'est un début. N'importe qui pouvait commencer quelque chose, donc c'est devenu amusant d'ajouter des détails par-ci par-là. C'est comme une bibliothèque ou un musée. Beaucoup d'étudiants viennent me voir en me disant qu'ils n'auraient pas fini leur diplôme sans Wikipédia.
Wikipédia naît, Jeanne Vermerch, le 15 janvier 2001. C'est un monde où le dictionnaire était encore utilisé chaque jour par les habitants de la planète. Quel est le projet, quelle est l'utopie au départ de Wikipédia, porté par ses cofondateurs ?
Alors, Wikipédia, en fait, il faut savoir que c'est lancé en soutien à sa petite sœur, ou enfin sa grande sœur plutôt, ou sa cousine, on dirait comme on veut, qui s'appelle Nupedia, qui est un système d'encyclopédie collaborative aussi, mais où seuls les experts peuvent intervenir. Et Wikipédia, en fait, propose, par contre, le pari qui est fait, c'est que tout le monde, indépendamment de son statut, en théorie, économique, social ou culturel, peut écrire du contenu, discuter ce contenu et participer à la modération de ces contenus. Et en fait, très rapidement, Wikipédia prend plus d'importance que Nupedia. Quelques mois après seulement le lancement de la version anglophone, la version francophone d'ailleurs, est lancée. Et puis Nupedia, en fait, disparaît. Et aujourd'hui, Wikipédia est disponible en 356 langues. Et donc, c'était vraiment cette utopie de dire, en fait, il n'y a pas besoin d'être expert pour participer à la production des connaissances. Si on met en fait des citoyens ensemble et qu'on les fait écrire et discuter selon des règles, encadrées par des règles, ils peuvent très bien coproduire des connaissances.
Ça, c'est l'utopie officielle, si je puis dire, mais est-ce qu'il n'y a pas existé dans le même temps des débats pour savoir qui pouvait effectivement contribuer à cette agglomération du savoir, notamment experts ou non experts, encore une fois, les avis n'étaient pas tranchés au tout début.
Alors oui, parce qu'en fait, il y avait deux visions, c'est-à-dire qu'il y avait une vision qui disait effectivement, si on met des citoyens non experts ensemble, qu'on les fait discuter et qu'il y a des règles pour les encadrer, ils peuvent très bien produire des savoirs. Et puis une autre vision qui disait, non mais en fait, ça c'est pas possible, il faut quand même de l'expertise pour pouvoir produire du savoir. Mais sur Wikipédia, normalement, en fait, la seule chose, c'est de respecter les règles. Et à partir de là, c'est en théorie, hein, parce que en fait...
On y reviendra bien. Ouais.
C'est plus complexe que ça, mais en théorie, si vous respectez les règles, vous pouvez contribuer à l'élaboration des connaissances sur Wikipédia.
Avec une ambition pour Horizon, une ambition en ligne de mire, la neutralité, est-ce que cette notion-là, d'abord, a du sens dans la conception d'une encyclopédie? Une encyclopédie neutre, fondamentalement, ça existe? Ça peut exister?
Alors, je pense que c'est plutôt, et c'est-à-dire que en fait, le postulat, c'est de dire, on accepte tous les points de vue, et quand on met en balance ces points de vue, on tend le plus possible vers la neutralité. C'est pas forcément être, parce qu'en fait, ce qui est neutre pour moi ne l'est pas pour d'autres, hein, très clairement. Mais si on fait intervenir le plus de monde possible avec des points de vue différenciés, eh ben on va tendre vers la neutralité. Et je pense que Wikipédia, malgré en fait certains discours qu'on peut entendre, est assez transparent là-dessus. C'est tendre vers la neutralité en mettant en balance les points de vue.
Elon Musk appelle Wikipédia Wokipédia. Alors est-ce que Wikipédia est woke? Est-ce que Wikipédia est de gauche, trop à gauche? Comment voilà, est-ce que Wikipédia peut être situé politiquement?
Alors,
la biais, question est vaste. Hein.
Oui, des asymétries de participation et des biais sociologiques, il y en a et je vais y revenir. Je voudrais juste, en fait, rappeler que aujourd'hui la plus grosse tentative d'infiltration politique qu'il y a eu sur le Wikipédia francophone, c'est la cellule de campagne d'Éric Zemmour, qui s'appelait Wikizedia, qui a été recrutée des contributeurs expérimentés pour réussir à participer sur Wikipédia et diffuser
pour modifier
du discours,
des pages.
Ouais, diffuser du discours et pas seulement sur la page biographique d'Éric Zemmour. Bon, jusqu'à preuve du contraire, Éric Zemmour, il n'est pas classé à gauche de l'échiquier politique. Évidemment.
Mais
que...
vous l'avez dit, c'était une intervention extérieure. S'agissant de Wikipédia, cette fois-ci, Wikipédia et ses contributeurs.
Alors, en fait, ce que moi j'observe, c'est que les biais, ils se trouvent dans le capital, notamment scolaire. On est sur du surdiplômé, hein, donc en fait, en théorie, tout le monde peut participer, mais ceux qui participent et surtout ceux qui restent, ce sont des gens en fait qui ont des compétences d'écriture, pour sourcer, pour rechercher, pour argumenter.
Qui ont du temps aussi,
et qui ont
on
du
l'imagine.
Temps aussi, exactement, parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps. Et puis, il y a un biais de genre très fort. Hein, on est à peu près sur 80% d'hommes et 20% de femmes. Mais par contre, en fait, dans l'orientation politique, finalement, ça s'équilibre assez bien parce que, en fait, les gens de tous bords politiques comprennent l'intérêt à un moment qu'il y a à y être et finalement tendent à se neutraliser eux-mêmes. Donc après, je pense que, enfin, c'est quoi être woke déjà et ensuite, si il y a bien quand même un outil ou un espace aujourd'hui qui est orienté politiquement, quand on voit Grok qui écrit que les chambres à gaz dans les camps d'extermination d'Auschwitz, ils étaient faits pour la désinfection du typhus et pas pour des meurtres de masse, ouais, il faut se poser la question aussi de ce qui est vraiment orienté idéologiquement aujourd'hui.
Ce qui est bien avec Grok, par ailleurs, cette intelligence artificielle, c'est que quand on lui demande et quand on pousse un peu plus loin la réflexion, elle nous recommande elle-même de ne pas l'écouter, et a raison cette fois-ci. Selon Wikipédia, cette fois, seuls 0,08% des articles de l'Encyclopédie française ont reçu le badge article de qualité, illustration que toutes les règles de la communauté sont respectées, et c'est-à-dire que le reste ne représente pas des articles de qualité.
Alors, en fait, pour avoir le label article de qualité ou bon article, c'est très compliqué. En fait, c'est comme je disais, on pense que tout le monde peut participer. En réalité, bah, ça demande des vraies compétences pour contribuer, en tout cas contribuer sur le long terme et contribuer vraiment à Wikipédia. Et donc, ça se ressent dans les articles. C'est-à-dire que pour avoir le label article de qualité ou bon article, en fait, ça prend du temps et ça demande un engagement sur le long terme des contributeurs. Mais ça ne veut pas dire que les autres articles sont pas de qualité. Après, Wikipédia le dit lui-même, c'est toujours une encyclopédie en train de se faire. Et le savoir est toujours évolutif. Je vous invite à lire une encyclopédie de la fin du 19e siècle, début du 20e. Certaines définitions, heureusement qu'elles ont évolué. Hein. Et c'est pareil pour Wikipédia, en fait. C'est-à-dire que le savoir, il est amendable et il est évolutif. Et heureusement. Donc ça ne veut pas dire que les autres articles ne sont pas de qualité, mais c'est qu'ils sont aussi en train de toujours se faire et que ça demande à des contributeurs de continuer à participer à cette amélioration.
Je reviens justement sur ces contributeurs. C'est toujours fascinant de se demander qui est derrière Wikipédia lorsqu'on l'utilise chaque jour. Qui sont ces contributeurs, hein, même dans l'équipe d'ailleurs de Questions du Soir, certains veulent s'engager désormais dans une carrière de contributrice ou de contributeur. En l'occurrence, combien sont-ils dans le Wikipédia francophone?
Je crois que dans mon introduction de thèse, donc en juin, quand j'ai soutenu, juin 2025, on dénombrait, il me semble...
18 757,
exactement,
le chiffre
j'allais dire.
Le chiffre exact.
Contributeurs actifs, c'est-à-dire ayant fait au moins une modification dans les 30 jours, les derniers 30 jours. Donc en fait, c'est pas énorme. Ça veut dire que en fait, il y a un petit noyau de contributeurs actifs sur Wikipédia. Et d'ailleurs, c'est le cheval de bataille de Wikipédia et de la Fondation Wikimedia ou de l'association Wikimedia France qui les porte, c'est-à-dire pour continuer l'encyclopédie et pour continuer à améliorer l'encyclopédie, il faut des gens qui s'engagent et il faut surtout des gens qui s'engagent longtemps ou qui renouvellent l'engagement. Ça, c'est le principe d'une communauté, hein, d'anciens contributeurs qui vont partir, qui vont s'arrêter, parce que c'est une charge mentale aussi, hein, pour beaucoup de contribuer à Wikipédia. C'est des discussions sans fin. Donc il y a beaucoup qui prennent des wiki-breaks et en fait, il faut sans cesse que la communauté aussi, elle se renouvelle et voilà.
Et pour comprendre ce qu'est et ce que représente par ailleurs véritablement Wikipédia, il faut introduire une notion, celle de Creative Commons. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit et comment cette notion permet de structurer l'encyclopédie libre en ligne.
Alors oui, alors c'est davantage les travaux de mes collègues Nicolas Julien et Léo Joubert qui ont travaillé sur Wikipédia comme commun numérique, c'est-à-dire ça vient d'Ostrom, hein, la théorie des communs, c'est-à-dire que si on met des gens ensemble dans un but, un chouette objectif, ils vont être capables en fait de gérer ensemble cette ressource commune en dehors de logique purement individuelle et de rétribution individuelle. Et donc, on dit que Wikipédia est un commun numérique puisque des individus se mettent ensemble et gèrent cette ressource commune, ce commun du savoir en ligne. En fait, c'est le fait qu'il soit plus, et ben ça crée un commun du savoir.
Wikipédia, c'est aussi une transparence, une traçabilité. On n'efface pas les archives de Wikipédia. Pourquoi d'abord et ensuite, qu'est-ce que cela permet là aussi du point de vue de la richesse démocratique?
Alors effectivement, donc il faut savoir que l'ensemble de ce qui a été écrit, modifié, ajouté, discuté sur Wikipédia depuis sa création, donc depuis le 15 janvier 2001, est accessible.
Tout l'historique
est accessible à tous. Vous pouvez avoir accès à tout l'historique des pages, les modifications et les discussions de Wikipédia depuis sa création. Donc déjà, c'est une richesse énorme, ne serait-ce que pour nous, les chercheurs. En fait, quand on travaille sur les espaces numériques, bah, par exemple, si on travaille sur X, on se retrouve très vite confronté à des logiques de privatisation aussi des données. Et donc ça, c'est une richesse énorme. Et puis, ça permet d'avoir l'ensemble en fait, de l'évolution de ces connaissances à jour, l'ensemble des discussions, comment le savoir il est discuté, donc comment il est co-construit. Et puis, ça veut dire que ce savoir, en fait, quoi qu'il advienne de Wikipédia, il disparaîtra pas, parce qu'il est archivé. Voilà.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'un patrouilleur, un contributeur au regard aiguisé, et je vous ferai après commenter justement la façon dont il perçoit lui-même sa fonction au sein de l'Encyclopédie Libre.
Patrouiller, ben en gros, c'est regarder tous les articles plus ou moins sensibles, ou voir une sélection d'articles qu'on fait soi-même en fonction de ses intérêts, de ses affinités, ou je sais pas. Et puis d'aller voir s'il n'y a pas des gens qui sont allés mettre des conneries sur les pages. Voilà. Là, il y a encore un mec qui met des conneries. C'est le mec, il m'énerve. C'est un type qui met régulièrement des conneries sur les articles communisme, qui va les mettre à sa sauce, mais bon. Il n'y a pas longtemps, j'ai pu constater qu'il y avait un site pédophile qui était utilisé comme... Enfin, qu'il y avait des liens vers un site pédophile qui était utilisé comme source dans un certain nombre d'articles. On ne peut pas se permettre d'avoir des liens vers un site pédophile dans un site aussi fréquenté que Wikipédia, qui est un site où beaucoup de gens vont, où beaucoup de jeunes vont. Et donc, on ne peut pas se permettre de mettre des liens vers un site pédophile comme si c'était une source lambda et une source fiable.
Je vous voyais prendre des notes, Jeanne Vermerge. Comment vous analysez ce discours d'un patrouilleur wikipédien?
Eh bien, parce que donc j'en ai rencontré et j'ai échangé avec certains contributeurs qui sont aussi patrouilleurs durant mon enquête de terrain pendant ma thèse. Et déjà, c'est un engagement immense, c'est-à-dire qu'ils ont des listes de suivi, ils surveillent des pages et en fait, ils ont notamment des notifications. Chaque fois qu'il se passe quelque chose sur ces pages, et ils patrouillent des heures entières chaque jour pour voir effectivement s'il n'y a pas des choses qui ne vont pas ou qui ont été ajoutées, qui sont contraires aux règles de Wikipédia, sachant que ça nécessite aussi très souvent un travail de discussion derrière, puisque les contributeurs qui ont ajouté du contenu, qui le voient supprimé, vont pouvoir venir discuter, mais pourquoi mon contenu a été supprimé, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis ça montre aussi, alors il y a des choses qui sont automatisées, par exemple, très souvent, notamment sur les pages où ce sont des sujets qui sont étudiés en cours d'histoire, par exemple au collège, on va avoir du vandalisme par des collégiens qui vont tout supprimer, qui vont écrire caca à la place de la page. Mm-hmm. Bon, alors ça, en fait, il y a ce qu'on appelle des bots, hein, c'est des robots qui automatisent, qui dans la seconde, annulent, la page revient. Et là, on voit qu'il y a quand même quelque chose de encore très manuel. Ce sont des contributeurs qui s'engagent et qui vont eux-mêmes faire de la surveillance. Et cette notion de surveillance, c'est ce qui fait aussi la coproduction des savoirs sur Wikipédia et qui est très importante et qui fait que ça marche si bien. C'est parce qu'on se surveille en fait les uns les autres en permanence.
Ça fait envie. Quels sont les défis qui attendent Wikipédia pour les 25 prochaines années? Est-ce que face aux bulles cognitives, notamment face à la segmentation des savoirs, des opinions, est-ce que Wikipédia peut représenter en tant que tel un lieu de convergence, de rencontre?
Alors, 25 prochaines années, c'est hyper large. mais déjà, dans les prochaines années, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut déplacer aussi le point de vue plus largement. Ce qui se passe, c'est pas que Wikipédia, c'est les institutions qui produisent du savoir, en fait, qui sont critiquées, outre critiquées, qui sont menacées. Les institutions universitaires, les institutions journalistiques, des journalistes aujourd'hui qui font leur travail, sont menacées. Les chercheurs, certains think tanks, Wikipédia donc en fait partie. Et puis évidemment, il y a le défi de l'intelligence artificielle générative où on pourrait avoir peur que les contenus soient de plus en plus produits en fait par cette intelligence artificielle. Et donc, c'est aussi des questionnements qui se posent dans la communauté.
D'un mot, Jeanne Vermerch, est-ce qu'on peut par ailleurs considérer que Wikipédia représente pour certains, pour ses contributeurs notamment, une forme de réseau social, un point de rencontre, de ralliement, de socialisation?
Oui, alors c'est quelque chose que je développais un peu dans ma thèse parce qu'il se noue en fait des liens, mais très différents de ce qu'on peut trouver sur d'autres réseaux sociaux qu'on connaît, comme Facebook par exemple, puis on n'a pas de liste d'amis. En fait, ce qui rapproche, c'est les contenus sur lesquels on contribue et qu'on discute, mais il y a des formes en fait de liens qui se créent, et notamment des contributeurs qui vont se rencontrer à l'extérieur. Mais toujours en fait, ce qu'on observe, c'est que ce qui les rapproche, c'est Wikipédia. Et donc, j'ai un contributeur qui me disait très bien, ce qui existe en dehors de Wikipédia n'a pas lieu d'être sur Wikipédia de toute façon.
Merci beaucoup, Jeanne Vermerch, d'être venue évoquer les 25 ans, le quart de siècle de l'encyclopédie libre Wikipédia, qui, on l'a bien compris, porte un projet qui la dépasse elle-même. Et merci également à celles et ceux qui ont pensé, imaginé, préparé cette émission. Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken, à la réalisation, Léa Racine.